France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
John Berger est né en 1926 dans la banlieue de Londres. Il est mort en janvier 2017 dans la banlieue de Paris. Il fut poète, romancier, nouvelliste, peintre, critique d'art, scénariste, etc. Il fut un artiste avec une vision du monde et une voix profonde, engagée, singulière. Précise et elliptique, était-il écrit en quatrième de couverture d'un de ses livres. Précise parce qu'écrire est un travail qui s'apparente à la soudure, au fait de recoudre une plaie par balle. Elliptique parce que comprenne qui voudra. Fin de citation. John Berger est au cœur de votre book club à l'occasion de plusieurs actualités éditoriales avec deux de ses grands lecteurs, son éditeur Olivier Cohen et la romancière essayiste poétesse Nancy Houston. Vers 15h50, comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman. Elle explore aujourd'hui le renversement des stéréotypes de genre dans le conte. Et en fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent notre grand jeu des pages musicales. Grâce à vous, on se quittera en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nancy Houston.
Bonjour.
Vous avez publié un livre avec John Berger, il s'appelait Les Sept Dormants, c'était en hommage aux sept moines du monastère de Tibérine. Vous êtes une grande lectrice de son œuvre, vous le citez parfois, merci beaucoup de venir parler de lui. Vous venez de faire paraître un recueil de poèmes, Chose dite, c'est une autre histoire, hein, mais je le dis quand même, aux éditions Iconoclaste. Bienvenue à vous dans le Book Club de France Culture. Bonjour Olivier Cohen.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur des éditions de l'Olivier, qui republie tout récemment deux ouvrages de John Berger, Un métier idéal et King. Vous avez publié de nombreux livres dans leur traduction française, dont ce grand qui s'appelle G, voilà. Et merci infiniment d'être ici pour nous parler de l'œuvre de John Berger. D'habitude, cette émission commence par un questionnaire de lecture que j'adresse à nos invités. Là, je vais vous demander d'être un peu plus précis et d'être des lectrices et des lecteurs uniquement de John Berger. Nancy Houston, par quelle œuvre vous êtes entrée dans cette dans ce grand territoire qu'est celui de John Berger?
Je suis entrée par la porte de la théorie, en fait, parce que les féministes américaines m'ont recommandé Ways of Seeing, parce qu'elles travaillaient sur le male gaze, le regard des hommes sur le corps des femmes, et il y avait beaucoup de passages intéressants dans ce livre-là.
On peut dire que c'était une adaptation d'un travail qu'il avait fait
à la télévision. Exactement, voilà. Parce qu'à l'origine, c'était un magnifique commentateur de tableaux. Il était marxiste et ses analyses étaient souvent très, très imprégnées de politique, mais d'une façon brillante et très chaleureuse et très accessible. J'ai besoin de dire d'entrée de jeu que c'est un des êtres humains que j'admire le plus au monde, que j'ai compté le nombre de ses livres, je les ai tous sortis ce matin, j'en ai 25 à la maison et c'est une petite proportion du nombre total, je pense qu'il doit y en avoir une bonne centaine. Je vais même avouer être amoureuse de lui, comme on peut être amoureux de personnes qui ne sont pas de notre époque. Je suis amoureuse de Charlie Chaplin aussi, mais
vous avez des super amoureux, Nancy Houston, franchement.
Ouais, c'est étonnant, c'est deux Britanniques communistes, c'est intéressant, c'est a priori pas mon genre, mais ils sont... Je le dis fortement parce que je trouve qu'il n'a toujours pas, malgré le travail d'Olivier Cohen depuis 20 ans maintenant, il n'a pas la reconnaissance qu'il mérite en France. Peut-être justement parce qu'il paraît comme un touche-à-tout, qu'il est artiste visuel aussi bien. Il lui-même dessine, lui-même faisait des films, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit des poèmes, il a écrit beaucoup, beaucoup de petits essais. Et donc, les Français adorent classer. Et ils adorent pouvoir savoir où ranger quelque chose dans une bibliothèque à la maison ou à la librairie. Et donc, Berger est déroutant de ce point de vue.
On reparlera peut-être de la réception, notamment en France, mais si on continue votre propre parcours, Nancy Houston, dans cette œuvre-là. Donc, vous dites entrée par la théorie, Ways of Seeing, et ensuite.
Et le deuxième coup de foudre véritable, c'est la trilogie paysanne. C'est donc après son changement de vie qui a eu lieu autour de la quarantaine. Il est venu s'installer en Haute-Savoie, dans un tout petit village que j'ai visité cet été pour la première fois.
Et, il a 50 ans, en fait, plutôt, parce qu'on est en 73.
Il a plutôt 50 ans.
Après la remise du prix.
Et il commence à vraiment connaître ce monde en profondeur. Et les trois livres de cette trilogie sont étonnants. Des romans, donc. Et puis, le chef-d'œuvre, pour moi, de tous, c'est Qui va là, c'est ça, To the Wedding, que je relis régulièrement et qui est un des plus beaux livres.
Est-ce que vous pouvez dire un petit mot de Qui va là?
Qui va là est l'histoire de plusieurs personnes, mais surtout un père et une mère qui convergent vers Athènes pour le mariage de leur fille. Et nous allons comprendre petit à petit que c'est un mariage qui ne va pas durer très longtemps, mais c'est un travail de sur le récit, sur les points de vue, sur les histoires de l'un et de l'autre. On apprend beaucoup, beaucoup de choses sur la Grèce. C'est raconté par un aveugle immobile assis par terre à Athènes.
Sorte de Homère.
Ou de même Oedipe. Olivier Cohen, vous êtes entré comment dans l'œuvre de John Berger?
Alors, il y a deux personnes qui m'ont aiguillé vers lui. D'abord, Bill Buford, qui était le rédacteur en chef du magazine Granta, qui était un admirateur fou de John et qui a énormément fait pour le faire connaître dans les pays anglo-saxons. Et Nancy Houston, ici présente, que j'ai retrouvée un jour dans une petite librairie anglo-américaine à Paris qui s'appelait le Village Voice et qui m'a parlé de John. Et
on est en quelle époque, si je peux me permettre?
Moi, c'était les années 90, si vous voulez. Hein. Et donc, j'ai écrit à John Berger, on s'est rencontrés. Il avait un nouveau livre, To the Wedding. Et je lui ai proposé de l'appeler Kivala parce que c'est la première réplique de Hamlet. Who's there? Alors, ça lui a plu. et on ne s'est plus quitté après. Mais pour répondre vraiment à votre question, le premier livre de lui qui m'a vraiment impressionné, c'est G en anglais, qui a eu le Booker Prize, ce qui a provoqué d'ailleurs un scandale.
On en reparlera tout à l'heure, ouais.
Et c'est une des raisons, à mon avis, qui ont fait qu'il a quitté l'Angleterre pour vivre en France. Et puis juste un mot par rapport à ce que disait Nancy. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment connu comme il devrait en France? Je dirais, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y est pour quelque chose.
Oui, il disait, en effet, je ne sais pas si vous pensez à ça, mais il disait qu'il était bien finalement à cette place d'ennemi, qu'il était bien à la place d'être critiqué. Je ne sais pas si vous pensez à ça, Olivier Cohen, mais il me semble que aussi pour évoquer, parlons-en tout de suite, la réception française, il est souvent fait état qu'il était d'abord publié chez Maspero et que c'est comme si ça teintait un peu le texte et comme si ça le précédait d'une certaine humeur.
Mais... Il avait, quand je l'ai rencontré, il était plus tout jeune, hein, mais il avait une allergie aux médias. Il détestait ça. Et quand je lui ai annoncé le plan média pour le lancement de To the Wedding, il m'a dit avec son accent inimitable, ah, c'est dommage parce que je pars en voyage pour 3 mois.
Pas de bol.
Alors je lui ai dit, ah bon, mais on peut pas par téléphone dire, je serai injoignable. Et qu'il a vu que j'étais tellement déçu, il m'a promis que pour le livre d'après, il accepterait de donner des interviews.
Qu'est-ce qui l'ennuyait ?
Il n'aimait pas être le centre de l'attention.
Non, c'était un homme extrêmement paradoxal. Hein. Donc, il détestait comme ça une espèce de personnages médiatiques sous les projecteurs, de donner son avis sur tout. Et en même temps, c'était un prodigieux acteur. Et je l'ai vu, et tous les gens qui le connaissent un peu l'ont vu parfois, dans la vie. D'abord, il était très beau. Il avait une présence magnétique.
Un regard, les photographies sont incroyables. Vous avez dit que vous étiez un peu amoureuse, donc on s'est dit qu'il y avait un peu de beauté dans
l'histoire. Il aimait se mettre en scène, mais dans la vie. Si vous voulez, pour les gens qui étaient là, pas pour des caméras, pas pour des journaux. Et il était très, très avare d'interviews. Et pour To the Wedding, pour me consoler, il m'avait dit, ah, j'ai donné il y a 5 ans une très bonne interview à Télérama. Alors je lui ai dit, mais
c'est pas comme ça que je vais vendre vos livres.
C'est pas comme ça que je vais y arriver, quoi. Mais une seule fois, il a été, alors pendant la période où on l'a publié, à la télévision, je racontais ça à Nancy tout à l'heure, à Nulle part ailleurs, l'émission culte de Canal+. Ouais. Et il a fait un triomphe. Les standing ovations, les gens pleuraient, applaudissaient. Enfin, c'était un acteur consommé. Et je crois que tu étais là aussi quand on avait pour son anniversaire, on avait loué le théâtre de la Bastille. Et des amis à lui, Simon McBurney et le théâtre de complicité, ont monté une espèce de spectacle avec lui, absolument étonnant. Voilà. Et il était là sur scène, c'était vraiment magnifique. Quoi. Donc il était à la fois pour et contre, si vous voulez, la publicité au sens...
Et la lumière, quoi.
Voilà.
Olivier Cohen, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qui vous a fait être un tel compagnon de l'œuvre de John Berger? Qu'est-ce que vous y avez vu qui vous a paru incontournable?
Écoutez, c'était un homme remarquable, c'est-à-dire...
Mais ça, c'est une chose, mais après, il y a les textes.
Oui, mais il était remarquable dans le sens où il y avait chez lui une combinaison extrêmement rare d'une très grande sensibilité, presque féminine, je dirais, même tout à fait féminine, et une intelligence aiguë et une extrême originalité. C'est-à-dire qu'il avait toujours des points de vue surprenants, sur tout. C'était quelqu'un qui se déplaçait constamment, si vous voulez, hein, comme quelqu'un, un cinéaste qui déplacerait la caméra sous des angles différents. Et on était toujours surpris, intrigué par son point de vue. Et je vais vous donner un exemple minuscule dans le dernier livre de lui qu'on a publié après sa mort, et qui s'appelle Palabre. Il décrit une scène très courte où il est dans une piscine et il fait la planche dans la piscine et il regarde le ciel. Alors il décrit le ciel. C'est un poète, hein, donc c'est en quelques phrases, c'est très très beau. Il décrit le ciel au-dessus de la piscine, qu'il voit les nuages. Et à la fin, il dit que peut-être ce sont les nuages qui le regardent. Et ça, si vous voulez, ça c'est John Berger.
Oui, parce que ça inverse quelque chose. À ce propos, Nancy Huston, non, je vous voyais la main sur un livre comme prête à bondir et lire quelque chose.
Oui, il faut vraiment ajouter que c'est extrêmement accessible, toujours. C'est très intelligent, mais ce n'est jamais un télo. Il n'est jamais en train de se gargariser de théorie.
D'ailleurs, il refusait
théorie.
Beaucoup ça. Il disait beaucoup, je n'ai que l'intelligence de mes yeux, je n'ai pas d'intelligence à la Borges, érudite et tout ça. Je ne suis pas sûre que c'était complètement vrai, Olivier Cohen.
Il en tout cas, sûrement partageur. Très éduqué, voilà. Il avait des grandes notions d'histoire et ainsi de suite, mais il ne pérorait jamais. Et dans le métro, en venant, j'étais en train de relire ce petit recueil qui s'appelle « Pourquoi regardons-nous les animaux ?» Et il y a un premier texte sur un chien qui est magnifique, ensuite des textes sur des souris, ensuite sur les os, etc. Et n'importe qui peut prendre plaisir à lire ça, mais aussi se sentir plus intelligent
après l'avoir fermé.
Oui, c'est étonnant.
Je disais qu'il est mort en 2017. En 2015, il écrivait un article pour le journal Harper's à propos de la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan. Il disait ces mots « Vous chantiez en arabe », il parle d'un concert, « une langue que je ne comprends pas et pourtant j'ai reçu chaque chanson comme une expérience totale ». On écoute Yasmine Hamdan en duo avec Christophe.
Elle veut des grands palais,
des grands palais.
Elle veut des grands palais de marbre, plein d'escaliers pour ses nuits blanches, des jardins suspendus au-dessus du temps. Où se rejoindraient les amants? Elle veut l'amour pur et sans faille. Dans le profond des horizons lointains, mordre au citron de l'idéal. Elle veut le début.
Je veux tant de choses, renverser le ciel, les paupières mi-closes. Je veux l'étincelle et que la nuit se lève encore
dans son cœur, son cœur.
Je veux quelque chose de nouveau. Je veux tant de choses, renverser le ciel, les paupières mi-closes. Je veux l'étincelle.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Écris ce que tu veux, vérité ou mensonge, peu importe. Parle, mais parle avec tendresse, car c'est tout ce que tu peux faire pour aider un peu. Construis une barricade de mots, peu importe ce qu'ils signifient. Parle de sorte qu'ils prennent conscience de ta présence. Parle pour qu'ils sachent que tu es là, toi qui ne ressens pas sa douleur. Dis ce que tu veux, car sa douleur est plus grande que toute distinction que tu pourrais faire entre le vrai et le faux. Pense-le avec les mots de ta voix comme d'autres pensent leurs blessures. Oui, ici et maintenant. Cela s'arrêtera. Il n'y a pas de juge. C'est un extrait relevé par Oriane Delacroix dans le roman G de John Berger, ici la traduction française d'Elisabeth Motsch pour les éditions de l'Olivier. Le roman lui valut le Booker Prize en 1972 et marque une rupture dans son œuvre comme dans sa vie. Dans un discours resté mythique, il reçoit le prix donc, mais il annonce qu'il en partagera la dotation avec les Black Panthers et dénonce une économie post-coloniale de la Grande-Bretagne. Après quoi, il s'installera dans un petit village français de Haute-Savoie, lieu à l'origine de plusieurs livres consacrés au monde paysan. John Berger est l'auteur d'une œuvre protéiforme, passionnante, tellement émouvante, sensible et érudite. Les éditions de l'Olivier republient King et un métier idéal après avoir tant publié. Tandis que les éditions Héros Limite publient, elles, la trilogie dont vous parliez tout à l'heure, Nancy Huston, et qui s'appelle Dans leur travail. C'est pour la première fois que dans un seul livre apparaissent ces trois livres-là. C'est l'occasion d'évoquer son œuvre et sa personne, puisque vous l'avez fait finalement tous les deux dès le départ dans cette émission, Nancy Huston et Olivier Cohen. Encore merci d'être avec nous dans un entretien récent, le plus récent qu'on ait sous la main à la presse, alors qu'il n'aimait pas trop ça. Vous disiez, Olivier Cohen, John Berger disait « L'univers ressemble à un cerveau, pas une machine. La vie est une histoire en train de se raconter. La toute première réalité, c'est cette histoire. » Donc on va commencer par une archive, c'est une archive de 1989. Il dit la manière dont il guette partout les narrations et les histoires.
Tout est narration sur cette terre. Et ça commence avec la création et ça continue jusqu'à la fin. C'est une forme de narration ce que nous vivons. Donc, j'emploie les catégories différentes, les gens différents. Mais c'est toujours plus ou moins avec la même idée, avec le même esprit. Quand le chien en moi, c'est toujours le même parfum, la même odeur qu'il suit. Cette trace narrative de ce que se passe, ce qui s'arrive aux hommes, aux femmes, bien sûr. Alors, est-ce que je me cache? Oui, sûrement. Mais c'était pas, comme l'enfant dit, je ne fais pas ça exprès. Et c'est pas un effort. Et il y a une autre chose à ajouter. Je crois que les vrais conteurs, les vrais narrateurs, souvent, ont un sens d'identité pour eux-mêmes, assez faible, ou plutôt instinctive, comme le chien. Mais pas cartésien, c'est très difficile de voir soi-même. Si tu veux, c'était pas exactement un manque d'identité, mais une identité qui est peut-être très forte, mais qui n'était jamais formulée. Bien sûr, c'est possible de se prêter aux identités des autres beaucoup plus facilement.
Bon, elle est merveilleuse, cette archive. C'est une archive diffusée en 1990 dans les entretiens à voix nue menés par Elisa Mantin pour France Culture. La voix de John Berger, j'imagine qu'en la dépliant avec vous deux, on va déjà pouvoir dire beaucoup de choses de cette œuvre-là. Olivier Cohen, peut-être d'abord ce qu'il dit de sa façon de toujours flairer la narration dans le réel. Presque envie de dire flairer la possibilité de monter les choses en écriture. Est-ce que ça dit une sorte d'état au monde de John Berger ?
Oui, je pense que je sais, j'ai compris en le fréquentant que c'était quelqu'un qui écoutait beaucoup, parfois sans en avoir l'air. Il était extrêmement attentif à ce que les uns et les autres pouvaient avoir à dire, même si c'était des choses apparemment insignifiantes, et comme si chacun, finalement, avait une histoire à raconter. Alors, certains ont plusieurs histoires à raconter, d'autres, une seule histoire, toujours la même. Mais, en tout cas, il était une oreille attentive. Et je pense que c'est quelque chose de très particulier. Il parlait de l'identité faible ou multiple, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire. Quand vous écoutez attentivement quelqu'un, vous oubliez dans un sens. Vous n'êtes attentif qu'à ce que la voix de l'autre vous dit, et peut-être aussi à ce qu'elle ne vous dit pas. C'est un événement avec le dit, le non-dit, les silences. Et je suis absolument convaincu que ce côté... comment on pourrait dire ça, acoustique, était quelque chose d'absolument capital pour lui.
Comment ça se retrouve, lui, qui a tant parlé du regard, le fait que vous insistiez d'abord sur l'oreille, Olivier Cohen, est intéressant. Comment ça s'entend, comment ça se retrouve dans les textes, cette idée de l'écoute ?
Alors, le regard, oui, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus.
On y reviendra éventuellement, mais poursuivez sur la question de l'écoute.
Oui, mais c'est complémentaire, si vous voulez, parce que John était quelqu'un aussi qui observait énormément. Et ça, alors on voit ça dans tous ses livres, quelqu'un qui avait un sens du détail et de l'observation extraordinaire. Et c'est ce qui explique aussi, entre autres choses, je pense, ça nous éloigne un peu de l'écoute, mais son admiration pour Charlie Chaplin.
Ah, deux amoureux de Houston.
Il a beaucoup écrit, enfin pas beaucoup, mais il a écrit des choses remarquables sur Chaplin, et notamment dans le dernier livre publié, l'histoire d'une mouche, que je ne vous raconterai pas parce que ça serait trop long, mais je vous recommande l'histoire de la mouche. Et il avait le culte de l'observation, et il était, si vous voulez, c'était bien, malgré son admiration pour Chaplin, qui était beaucoup un cinéaste du muet, lui, c'était plutôt le parlant, vous voyez. Donc, il écoutait beaucoup les gens parler.
D'où ce dernier titre, d'ailleurs, dont le livre dont vous parliez, Palabre, Nancy Houston, sur ce qu'on entendait dans cette archive de 1989, l'idée d'abaisser comme ça son identité, d'en faire quelque chose de friable pour être peut-être plus vivant, plus poreux au monde.
Oui, je dirais que je me sens apparentée à John Berger, même si ce n'est pas forcément une influence qu'il a eue sur moi, mais on a tiré souvent les mêmes conclusions de notre expérience de la vie, qui comprend l'exil et beaucoup de voyages et l'utilisation de plusieurs langues, etc. Je ne l'avais pas entendu parler de la narration comme centrale à l'expérience humaine à ce point précisément.
Il a
dans l'archive de tout à l'heure.
C'est tellement
oui.
Beau.
C'est très proche de ce que j'essaie d'exprimer dans l'espèce fabulatrice, par exemple.
Absolument.
Mais je tiens à insister sur le fait qu'il écoutait aussi énormément les femmes. Cet été, par hasard, j'étais à Barcelone, je marchais sur les Ramblas et je suis passée devant une façade de musée, c'était le musée de l'image, et il y avait une grande expo, John Berger. Évidemment, je me suis précipitée, et il y avait beaucoup de dessins de lui-même, des autoportraits, il y avait des photos qu'il avait faites de travailleurs immigrés arrivant à la gare de Genève, il y avait tout son engagement communiste et ainsi de suite, mais il y avait aussi des vidéos qu'il avait fait tourner de lui-même en discussion avec notamment des femmes remarquables comme Glenda Jackson, comme Tilda Swinton. Je ne sais pas s'il y avait des archives avec Susan Sontag, mais il y a eu des grands échanges passionnants entre eux deux aussi. Et ça, ce n'est pas non plus très typique des intellectuels français. Et les femmes, non, ils savaient les écouter et ils savaient apprendre d'elles. Et donc tout ce qu'ils disent sur le regard des hommes sur le corps féminin et à quel point chaque femme, depuis toute petite, en fait, se balade avec une intériorisation de ce regard extérieur et elle se voit de l'extérieur tout en se sentant de l'intérieur. Quelle personne avant Berger ne l'a formulé aussi de façon aussi cristalline, mais je pense qu'il a été. C'est parce qu'il a su écouter, il a été attentif à ça.
C'est d'ailleurs très troublant en lisant G de voir comment est-ce qu'il peut aussi précisément, par la littérature, dire un désir féminin. Dire un corps pénétré, un corps désirant, du point de vue de la femme. C'est assez troublant pour un roman des années 70.
Vous voyez, vous êtes amoureuse aussi.
Oui, je suis amoureuse.
Je le sens. J'ai envie de lire un petit extrait sur le conte. Justement, je suis tombée sur des tas d'archives dans mon propre ordinateur qui ont à voir avec Berger. Et dans le portrait, il parle d'artiste dans un grand livre qui s'appelle Portrait. Il y a un portrait de Velázquez et son Ésope, le grand conteur, celui qui raconte les contes au début de l'humanité occidentale. Et voici que je me surprends à lui ressembler, à prendre son attitude, celle un peu étrange d'un homme à la fois blessé, meurtri et plein de compassion. Or, c'est justement cette compassion sans laquelle il n'y a pas de conteur, qui est le complément inséparable du scepticisme, une tendresse pour toute expérience vécue, comme pour tout ce qui est humain. Les moralistes, les politiciens et les marchands ne savent pas ce qu'est la vie. Ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et des biens matériels. La plus grande partie de la littérature est l'œuvre d'exilés et de déshérités. Ceux-là savent ce qu'est la vie. Ils ont appris par la force des choses à l'observer et ils ont perçu la nécessité de sauver de l'oubli cette expérience, de l'empêcher de disparaître dans la nuit. C'est très, très beau, c'est très important de se rendre compte que c'est grâce aux exilés, grâce aux misfits comme ça, que nous comprenons quelque chose à la vie.
Et il parlait aussi de lui, je vous donne la parole dans un instant, Olivier Cohen, comme d'un orphelin, avec la conscience d'être orphelin, orphelin qu'il n'était pas, mais qu'il a aussi été par l'arrachement à sa famille, puisqu'il a été tout jeune enfant en internat, et donc il parle beaucoup de la solitude, de la solitude qui a été la sienne au milieu d'une institution qu'il a vécue comme étant très violente, solitude qui s'est répétée ensuite lorsqu'il a décidé d'être simple soldat à Belfast et où il vivait avec les déshérités, avec les misfits, avec les personnes les plus prolétaires de ce pays-là, Olivier Cohen. Donc il y a quelque chose, peut-être dans son approche à la vie, qui circule dans son approche des textes, qui aurait à voir avec ça, avec une forme d'exil intérieur.
Oui, tout à fait. Mais ce qui me paraît important, c'est ce qui vient d'être dit sur les déshérités et aussi les gens qui errants, les vagabonds, les pauvres. Et bon, vous allez me dire que c'est une obsession, mais un des premiers films de Chaplin s'appelle Une vie de chien. Et Chaplin, c'est le personnage, justement, du clochard. Céleste, mais clochard quand même. Et donc je pense que ça va très très loin, cette relation qu'il a avec Chaplin. Et à un moment donné, il parle effectivement de lui-même, de ses rapports avec, là je parle de John, avec sa famille. Quand il parle de Chaplin, il parle du fait que Chaplin s'est retrouvé enfant complètement seul, abandonné, puisque sa mère était internée dans un asile. Donc je suis convaincu que c'est une véritable expérience chez lui, ce côté errant, solitaire.
Mais comme un sentiment d'abandon, vous diriez? Parce que quand vous dites ça, Olivier Cohen, ça me fait aussi penser à la façon dont il parle de ses livres comme étant souvent des conversations avec sa mère. Non, ça vous dit quelque chose, la manière dont il a de dire ça?
Il y a même un texte de lui absolument extraordinaire, qui n'est pas très connu, où il se trouve à Lisbonne et il s'assied sur un banc et sa mère est là. Mais sa mère est morte depuis des années. Et il parle avec sa mère. C'est un texte qui vous prend à la gorge tellement c'est très très simple, mais c'est absolument vertigineux.
Il lui dit quoi ou ils se disent quoi?
Je ne sais plus.
Bon, la situation en tant que telle.
J'ai gardé une impression, si vous voulez, globale de ce texte. Je sais, je serais incapable de vous dire sur quoi porte leur conversation, mais c'est une conversation tout à fait normale.
Hein. De toute façon, peut-être le mot le plus important, Olivier Cohen et Nancy Huston, c'est l'idée de la conversation. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est un dispositif qui se retrouve dans nombreux des textes. Et quand il dit la conversation avec la mère, tout à l'heure, on entendra, j'espère, qu'on aura le temps, une archive où il parle de la conversation, mais aussi de la conspiration avec les lecteurs. Peut-être que c'était un auteur qui était en conversation, John Berger.
Mais il nous apprend ça, que en fait, nous sommes tous des conversations, que nous portons tous nos morts à l'intérieur de nous. Ça ne lui est pas propre, c'est simplement un peu explicité chez lui. Et nous pouvons tous parler avec des gens qui sont absents ou qui sont imaginaires. Dans un des textes que je lisais à l'instant dans le métro, il parle du chimpanzé peluche qu'il avait enfant. Il dit, je crois, ma mère me l'avait offert, je crois que je l'avais appelé Jackie. Il faudrait que je lui pose la question. Mais bon, je ne peux pas parce qu'elle est morte. Mais c'est ça. C'est toujours comme si elle était là, sa présence à fleur.
Avec un côté pratique presque, je trouve. C'est vrai, non? Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait que je l'appelle. Ah non, je ne peux pas. Comment je vais faire?
Il y a toujours les deux côtés avec John Berger, c'est-à-dire à la fois ce goût de l'échange et de la conversation, et en même temps, c'est ce qui transparaît souvent dans ces textes, c'est justement le contraire, c'est-à-dire une forme de solitude. Les deux sont là. Et je veux dire, c'était pas du tout quelqu'un de, comment dire, de morose ou qui n'aimait pas rencontrer les autres, au contraire. Mais il y avait quand même une sorte de retrait chez lui. Pas à tout moment, mais à certains moments.
On a besoin de solitude pour créer cette solidarité dans l'écrit. En fait, c'est ça le beau paradoxe.
Dans le Book Club ici, il y a des lectrices, des lecteurs, des auditeurs, des auditrices. On va écouter Benoît, qui est un lecteur de l'œuvre de John Berger.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Mon premier contact avec John Berger, c'était la lecture de Ways of Seeing, des essais sur l'histoire de la peinture. Et je m'attendais à voir quelque chose de très académique. Et en fait, j'ai trouvé des essais qui étaient certes très exigeants, qui disaient des choses sur une critique féministe ou marxiste de la peinture, mais qui étaient en même temps très généreux pour le lecteur, qui laissaient le lecteur comprendre ce que la peinture voulait dire d'elle-même, sans ajouter des mots parfois, dans des essais sans parole, où il y a seulement des reproductions de peinture. Et en même temps, j'ai été frappé par la tendresse qu'a John Berger pour ce dont il parle. J'ai retrouvé ça dans ses essais sur les choses du quotidien, dans le livre Confabulations, et dans ses essais sur le dessin, où il peut parler à la fois des peintures rupestres de Lascaux, et où il raconte une séance de dessin qu'il partage avec son fils, où ils apprennent l'un l'autre de leur technique.
Merci beaucoup à Benoît de nous adresser cette remarque, question, rapport à l'œuvre de John Berger. On entend l'idée de la tendresse, qui est un mot qui est revenu plusieurs fois. Olivier Cohen, vous levez le petit doigt.
Involontairement, mais parce que je suis touché par ce rappel de ces dessins. Il dessinait beaucoup, il faisait des aquarelles aussi. Et c'était toujours un bonheur de trouver dans le courrier une aquarelle qu'il envoyait comme ça, sans un mot, de la part de John. C'était une manière de nous renseigner sur son humeur, son état d'esprit du moment, et ça témoignait, on peut peut-être utiliser ce mot, oui, d'une certaine forme de tendresse, si vous voulez. C'était, n'était pas intrusif, ça n'était pas embarrassant, c'était juste un signe qu'il envoyait. Et il avait un certain usage personnel du dessin et de la peinture. C'était pas seulement quelqu'un
qui commentait.
Et pour ce qui est de commenter, il était absolument magistral. Et je me souviens de plusieurs conversations avec lui. On déjeunait ensemble, ça durait des heures, et on parlait de tel tableau de Carpaccio qui se trouvait dans telle église à Venise et qui signifiait ceci, mais peut-être pas exactement ça. Et il, c'était passionnant, mais ça n'était pas quelqu'un qui vous imposait un point de vue, mais qui vous appelait à donner le vôtre et à le confronter avec le sien. C'est pour ça que, encore une fois, je pense qu'il y avait quelque chose de tout à fait remarquable chez cet homme, de socratique presque, vous voyez, une manière de vous faire accoucher de ce que vous pensiez, de ce que vous sentiez, à travers des choses précises, la peinture, des images, voilà.
À ce propos, d'ailleurs, et dans sa forme la plus joyeuse, le livre « Voir le voir », qui est donc le titre en français, est... propose exactement ça, y compris du point de vue formel, c'est-à-dire que on est invité à entrer dedans, on est invité à presque jouer avec la pensée, avec l'érudition et que l'histoire de l'art. Sur cette notion de la tendresse, peut-être, Nancy Houston, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Et c'est le mot clé, on le découvre ensemble cet après-midi. Et j'avais un autre petit extrait sur la moto, et on va voir quel peut être le lien entre la moto et la tendresse. Conduire une moto, ça vient du livre Bento, on pense. Conduire une moto est une expérience intense de la liberté, tant sur le plan psychique que physique. La vraie liberté, c'est qu'en conduisant une moto, on observe tout à chaque instant, puis on prend une décision. Et les conséquences de cette décision se font sentir presque tout de suite, et en même temps, on est physiquement très peu protégé par rapport à ces conséquences. Donc, entre décision et conséquence, il n'y a pour ainsi dire aucun espace. On décide une chose et elle se produit pour le meilleur ou pour le pire. Alors que dans le reste de la vie, inévitablement, le délai est plus important. Il y a plus d'éléments ou de facteurs contraignants, plus de friction, si l'on veut, entre décision et conséquence. Et d'une manière très vécue, cela me semble toucher à ce que je veux dire par le mot « liberté ». Ça n'a rien à voir avec la puissance ou la vitesse, mais presque avec leur contraire, le choix libre par le geste, le projet ou l'acte de la tendresse. Incroyable.
Mais... comment est-ce qu'on peut déplier ça un peu en vous écoutant? Je pensais aussi à quelque chose qu'on a assez peu évoqué depuis le début de cette émission, moi, un peu en évoquant cette remise de prix en 1972 et l'acte quand même qu'il fait en décidant de remettre une partie de sa dotation au mouvement des Black Panthers et d'utiliser une autre partie de sa dotation pour aller faire une sorte de grand reportage littéraire sur, voilà, une classe travailleuse et des hérités. Il y a quelque chose dans ce qu'il dit là, avec la moto et la tendresse, de la responsabilité de penser, d'être libre, de choisir, qu'il pousse assez loin, il me semble, John Berger. Tendre, mais alors, tranché.
Si vous permettez, pour ce qui est du Booker Prize, on a publié, il y a longtemps, à l'Olivier, une petite plaquette, comme ça, hors commerce, avec des différents textes sur la manière dont Jay a été reçu par la critique britannique. C'était un massacre, littéralement. Et le texte qu'il a prononcé.
Oui, c'est incroyable.
Et il y avait, de manière très claire dans ce texte, une forme de provocation. C'est très visible, il ne s'en cachait pas. Et plusieurs personnes étaient au courant du contenu du texte. Et une de ces personnes avait même essayé de le convaincre de ne pas prononcer ce discours tel qu'il l'avait écrit, et surtout de ne pas dire qu'il allait donner cet argent aux Black Panthers. D'ailleurs, c'était la section jamaïcaine des Black Panthers, c'était pas les Américains. Parce que, en fait, le Booker Prize était...
il y a des raisons financières à ça.
...par ouais. Monsieur Booker, c'était quelqu'un qui s'appelait comme ça, et qui était effectivement un négociant qui faisait des affaires... Avec les Caraïbes, entre autres.
Mais dans cette histoire, Olivier Cohen, il n'est pas que question de la joie de se saboter soi-même et de faire un doigt d'honneur à l'intelligentsia littéraire et politique de l'Angleterre des années 70. C'est quand même plus profond.
Oui, non, c'était... Je pense, là encore, il y a son côté double. C'est-à-dire que il faisait partie... Enfin, son œuvre, disons, fait partie de la littérature anglo-saxonne, anglaise. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il était reconnu. Et en même temps, il voulait faire savoir qu'il n'était pas du tout un homme de lettres. Et que sa vie ne consistait pas uniquement à écrire des livres, mais qu'il était, d'une certaine manière, un homme d'action, vous voyez. Mais pas un homme d'action au sens d'un aventurier à la Malraux, mais un homme qui agit.
Un homme d'acte, en fait, même. Voilà. Presque plus qu'un homme d'action,
oui,
d'une
oui.
certaine manière.
Et puisque ça me rappelle une chose, je parlais tout à l'heure du fait qu'il se prêtait avec beaucoup de réticence à,
aux interviews.
Aux interviews. Et il y a eu une autre histoire, il y en a eu plein comme ça, où je lui avais dit, bon, alors voilà, tu es invité, je sais pas, c'était à Beaubourg, je crois, pour une soirée sur ton œuvre. Elle m'a dit, ah ben c'est pas possible. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, c'est parce que j'ai promis à mon voisin de l'aider à faire les foins.
J'allais dire, oui, c'est ça les actes aussi, voilà. Quand on dit cette trilogie paysanne, into their labors, dans leur travail. C'est vraiment dans leur travail. Il le fait physiquement. Il peut passer plusieurs semaines d'affilée à aider à faire les foins, par exemple.
Il affirme même...
Il ne le décrit pas de loin. Il le vit de l'intérieur avec son corps.
Il dit même que...
C'est très incarné, John Bridger.
C'est en apprenant les travaux agricoles, les travaux paysans, qu'il a dans l'amitié qu'il a nouée avec ses nouveaux voisins, à partir du moment où il s'installe en Haute-Savoie en 1973, qu'il a appris le plus de l'existence. Après, j'ai aussi... Des fois, je me demande s'il ne se joue pas de certains mots. Non ? Pas du tout ?
Non, non, vraiment... Je vous disais, tout à l'heure, il pouvait parfois un peu faire l'acteur.
Provoquer, vous disiez.
Mais, voilà, mais là, c'est absolument sincère. C'était très clair qu'il ne mentait pas. Et qu'il avait pour ses amis, ses voisins paysans de Haute-Savoie, une relation tout à fait, comment dire, j'allais dire ordinaire. Non, c'était tout sauf ordinaire,
non,
mais normal.
Oui, mais il l'a décrit aussi avec précision, en ayant conscience de sa position. C'est qu'il dit, à aucun moment je ne me suis cru être totalement l'un des leurs.
Bien sûr.
J'ai été à un endroit où je pouvais faire de la littérature, je pouvais écrire. J'étais, tout à l'heure, vous décriviez parfaitement l'un et l'autre la position d'écoute dans laquelle il se trouvait, mais c'était à partir de cette légère distance, néanmoins, proximité et distance, qu'il se mettait à écrire. Probablement la même, ou peut-être une autre, avec laquelle il a écrit ce livre « Un métier idéal » qui reparaît aux éditions de l'Olivier. On va écouter Maud qui l'a lu. C'est un texte où il suit avec son ami photographe, on va en parler, Jean Mort, un médecin.
Le livre de John Berger, Un métier idéal, m'a beaucoup marqué lors de sa lecture, notamment par les qualités littéraires de John Berger, les photographies, bien évidemment, de son ami qui l'accompagne, l'aspect sociologique et plutôt anthropologique qu'il nous montre de l'Angleterre rurale des années 60, mais aussi leur discussion avec le médecin, ses réflexions sur son métier de soigneur de corps et de soigneur d'âme. C'est un très beau livre dont je recommande la lecture, surtout dans la nouvelle édition qui vient de sortir à l'Olivier.
C'est une femme d'environ 37 ans. Il flotte encore autour d'elle un petit air d'écolière. Elle s'occupe de sa mère, et c'est en général pour la mère et non pour la fille que le médecin se rend au cottage. Il a vu la fille pour la première fois 10 ans auparavant. Elle avait un rhume, elle toussait et se sentait faible. Sa radio des poumons était normale. Il avait l'impression qu'elle désirait parler de quelque chose. Quelques mois plus tard, elle souffrit d'insomnie et d'asthme. Tous les tests d'allergie se révélèrent négatifs. L'asthme empira. Quand il la voyait, elle lui souriait à travers sa maladie. Elle avait les yeux ronds d'un lapin. Elle craignait tout ce qui se trouvait à l'extérieur de la cage de sa maladie. Il avait la conviction que son état résultait d'une tension émotionnelle extrême. Toutes deux, sa mère et elle affirmaient cependant qu'elle n'avait pas de soucis. 2 ans après, il découvrit l'explication par hasard. Il avait été appelé au milieu de la nuit pour un accouchement. 3 femmes du voisinage étaient là, et pendant qu'il attendait, il but une tasse de thé dans la cuisine en leur compagnie. L'une d'elles travaillait dans une grande laiterie industrielle de la ville la plus proche. La fille asthmatique y avait également travaillé dans le temps. Il s'avéra que le directeur, un membre de l'armée du salut, avait eu une liaison avec elle. Bien sûr, il avait promis de l'épouser. Puis, saisi de remords et de scrupules religieux, il l'avait abandonnée. S'était-il agi d'une véritable liaison ou l'avait-il simplement, un soir, conduite par la main, hors de la crèmerie jusqu'à son bureau avec ses fauteuils en cuir? Le médecin interrogea de nouveau la mère. Sa fille lui avait-elle paru heureuse quand elle travaillait à la laiterie? Oui, parfaitement heureuse. Il posa la même question à la fille. Elle sourit dans sa cage et fit oui de la tête. Puis il demanda de but en blanc si le directeur ne lui avait pas fait des avances. Elle se figea. Comme un animal qui se rend compte qu'il lui est impossible de fuir, ses mains s'immobilisèrent, sa tête demeura tournée sur le côté, sa respiration devint inaudible. Elle ne répondit jamais. Son asthme persista et provoqua une insuffisance respiratoire. Elle survit grâce aux stéroïdes. Son visage est lunaire, ses yeux sont placides. Par contre, ses sourcils, ses paupières et la peau tirée sur ses pommettes tressaillent à chaque mouvement et chaque bruit qui pourrait annoncer quelque chose d'inattendu. Avant, l'eau était profonde. Puis est venu le torrent de Dieu et de l'homme, et ensuite les hauts fonds, clairs, mais toujours remués, toujours irrités par leur propre manque de profondeur, comme par une allergie. Il y a un coude de la rivière qui rappelle souvent son échec au docteur.
C'est un extrait de Un métier idéal de John Berger avec les photographies de Jean Maure paru aux éditions de l'Olivier. C'est l'une des actualités éditoriales qui nous a fait programmer cette émission. La traduction de l'anglais est signée Michel Lederer. On entend ici une sorte de petit chapitre, une scène. Ça me fait penser à ce que vous disiez au tout début de l'émission, Nancy Huston, sur son écoute, la façon dont il a compris avec intuition ce médecin, mais John Berger écoutant ou regardant le médecin, qu'il y avait quelque chose qui clochait dans l'asthme de cette jeune fille.
Il entend les femmes même quand elles ne peuvent pas parler.
Mais ce médecin, John, il s'appelle John Sassel.
Ouais.
C'est pas n'importe quel médecin. C'est-à-dire que c'est un homme qui a fait c'est des études de médecine, qui a beaucoup pratiqué, c'est un très bon diagnosticien, mais c'est aussi quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son travail, qui a lu Freud aussi, qui a lu Baline. Enfin, c'est un médecin de campagne assez exceptionnel, il faut bien le dire.
Et que suit John Berger.
Que suit John Berger. Et donc, effectivement, ce livre, c'est John Berger qui écoute un médecin qui écoute ses patients,
ouais.
Et ou qui les sonde, parce que on voit c'est admirable ce passage. Je trouve c'est presque comme une mini tragédie, hein, en quelques paragraphes.
Oui, et puis surtout là on l'a un tout petit peu coupé pour la lecture d'Oriane Delacroix, mais c'est aussi l'idée que c'est comme une nouvelle d'une certaine manière, et dans cette nouvelle il y a à la fois un cas médical mais aussi une sorte de petit roman quoi qui se tient.
Oui, c'est ça, c'est un roman ou une pièce miniature.
Et c'est un tableau.
Ouais, absolument.
C'est un Caravage. N'est-ce pas? À petite touche, il nous a peint la situation. On voit à quel point son regard est respectueux et précis. Et il est l'intermédiaire. Il nous offre la compréhension de cette scène par sa précision tendre. C'est vraiment ça.
Il y a un passage, je ne sais plus à quel moment, où John Berger dit... Il parle d'un des patients ou d'une patiente du docteur Sassol, et il dit sa respiration ressemblait à des mots. Et c'est, je trouve que c'est tout à fait ça résume d'une certaine manière.
Oui, même que là,
le propos.
Il use de cette métaphore visuelle de la cage de la maladie en dehors de laquelle la jeune fille avait peur de tout. Voilà, c'est extrêmement frappant. J'espère qu'on vous aura donné, les uns les autres qui nous écoutent, très envie d'aller découvrir l'ensemble de cette œuvre. Je vous adresse un très chaleureux merci à tous les deux, Nancy Huston et Olivier Cohen, d'avoir évoqué avec nous cet après-midi l'œuvre de John Berger.
Merci.
Un plaisir.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Bientôt 15h50 dans le Book Club, et à cette heure-ci, on reçoit de la visite tous les mercredis. C'est vous, Mathilde Wagman, qui venez nous dire bonjour. Bonjour,
bonjour Marie.
Bonjour. Vous avez pour nous un œil sur la littérature qu'on dit jeunesse aujourd'hui. Vous nous parlez d'une vaste problématique, la question des stéréotypes de genre véhiculés par les contes.
Oui, Marie, c'est un problème identifié depuis bien longtemps. Et pour poser le cadre de la problématique, je vais vous lire cette petite citation. Comme je sais que vous êtes joueuse, on va jouer, vous allez me dire si vous en devinez l'auteur ou allez, je vous donne un indice, l'autrice. La littérature enfantine reflète les mythes créés par l'orgueil et les désirs des hommes. La petite fille apprend que pour être heureuse, il faut être aimée. Dans les contes, on voit le jeune homme partir aventureusement à la recherche de la femme. Il pourfend des dragons, il combat des géants, elle est enfermée dans une tour, un palais, une caverne, enchaînée à un rocher, captive, endormie, elle attend. Un jour, mon prince viendra. Fin de citation. Alors Marie, une idée de qui est l'autrice?
Non, je ne vais pas faire semblant.
Bon, moi, c'est trop facile, hein, j'avais la réponse. C'est Simone de Beauvoir, c'est un extrait du Deuxième Sexe, texte fondamental dans l'histoire de la pensée féministe en France et dans le monde, bien sûr. Il est paru en 1949. Du point de vue de la création, le problème peut se poser en ces termes. Comment inventer des histoires qui déjouent ces stéréotypes?
Et ce qui vous intéresse, Mathilde, si j'ai bien compris, c'est que face à ce constat ancien, donc, ça fait des années que la littérature pour enfants essaie de tordre le cou aux stéréotypes.
Oui, face au constat relativement ancien, très récent, à l'échelle de l'histoire de l'humanité tout de même, cela fait un certain nombre d'années que des auteurs, des autrices se sont emparés de la forme du conte en tâchant de déjouer le stéréotype. C'est devenu presque un sous-genre en soi, dès les années 70 notamment, époque de ce qu'on a appelé la deuxième vague des féminismes, époque à laquelle ont commencé à apparaître des histoires de princesses qui ne veulent pas se marier ou dans lesquelles c'est la princesse qui doit délivrer le prince des griffes du dragon, par exemple, des contes renversés où l'on dote l'héroïne féminine des vertus traditionnellement associées aux héros masculins.
Et dans cette catégorie, un ouvrage a particulièrement retenu votre attention.
Oui, Marie, c'est un récit qui a paru pour la première fois en 1935, il y a presque 90 ans. C'est le conte d'une autrice, artiste et illustratrice dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. Elle s'appelle Vanda Gag. Elle est née en 1893 et morte aux États-Unis en 1946. Dessinatrice, graveuse, elle créa plusieurs livres pour enfants, dont certains sont des classiques outre-Atlantique. Mais bien que son travail ait été célébré par des auteurs tels que Maurice Sendak ou Robert Crumb, par exemple, elle reste très peu connue en France.
Et alors, pour le coup, c'est quel ouvrage de Vanda Gag qui vous a intéressé?
Le livre s'appelle Gone is Gone en anglais, Fichu c'est fichu dans la traduction qu'en propose Lise Thiollier et qui vient de paraître aux éditions Ypsilon, sous-titre L'histoire d'un homme qui voulait faire les travaux domestiques. C'est l'histoire d'un paysan, Fritzel, qui vit avec sa femme. La journée, Fritzel laboure le sol, sème les graines, coupe le foin, tandis que Lizzie nettoie la maison, cuisine la soupe et s'occupe de leur petite fille. Lorsque Fritzel rentre du champ le soir à la maison, il s'assoit, s'éponge la figure et dit « Tu n'as pas idée, Lizzie, de ce que c'est que le travail d'un homme. Tu n'as pas idée. Ton travail maintenant, c'est rien du tout. » Un jour, Lizzie le prend au mot et lui propose d'échanger les rôles. Fritzel accepte et c'est ainsi que commence le récit de la journée où Fritzel va vivre la vie de Lizzie. Au début, tout va bien pour lui qui fait griller les saucisses de son petit déjeuner tout en se perdant dans ses pensées. Mais voilà le chien qui vole les saucisses. Fritzel de lui courir après sans parvenir à le rattraper. « Fichu, c'est fichu », se dit-il fataliste. Pour se remettre, il se décide à barater le beurre, mais réalise alors qu'il a complètement oublié de donner de l'eau à la vache. Il la sort de la grange, lui donne à boire, puis la met sur le toit de la ferme, couvert d'herbe, pour qu'elle ne soit pas trop loin et qu'il puisse retourner s'occuper de sa petite fille, laissée près de la baratte à beurre. Entre-temps, l'enfant...
Ça dit quelque chose.
Mais ça vous parle.
Ça
moi aussi. Moi aussi. L'enfant, entre-temps, a bien sûr largement eu le temps de la renverser. C'est déjà midi, notre pauvre paysan entreprend de faire cuire la soupe, mais la vache parcourt le toit en tous sens. De crainte qu'elle ne tombe, Fritzel se lie à elle par une corde, qu'il enroule autour de l'orteil et qu'il fait passer par le trou de la cheminée. Quelques instants plus tard, la vache tombe du toit et voilà notre paysan, emporté par son poids, pendouillé dans la cheminée, suspendu au-dessus de la marmite. Lizzie rentre alors des champs, trouve la vache retenue à la corde, à moitié étouffée. Elle prend sa faux, libère l'animal, constate les nombreux dégâts causés par son mari, jusqu'à la découverte de ses deux bras et ses deux jambes qui s'agitent dans la marmite. Sauvé de la noyade par sa femme, il sort du récipient une feuille de chou dans les cheveux et un céleri dans la poche.
Et quelle est la morale de l'histoire?
À la fin, Fritzel reconnaît penaud que le travail de Lizzie n'est pas facile. Mais lorsque cette dernière le rassure, lui dit qu'il fera mieux demain, Fritzel la supplie de le laisser retourner au champ, lui promettant qu'il ne dira plus jamais que son travail est le plus difficile. Elle accepte et déclare qu'ainsi, ils pourront vivre en paix et dans la joie pour toujours. Alors bien sûr, pour la révolution, on repassera l'ordre patriarcal et pour finir, bien gardé. Mais ne boudons pas notre plaisir, car les déboires de ce pauvre Fritzel sont dignes d'un Chaplin ou d'un Keaton. personnes et les rires provoqués par l'enchaînement des catastrophes merveilleusement soulignés par les dessins en noir et blanc de Wanda Gag. Et les rires sont francs. L'ironie, on le sait, est depuis toujours la première et la meilleure arme pour déjouer les assignations, quelles qu'elles soient. Pour nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, lire ce conte qui décrit par le menu les concepts de travail domestique et de charge mentale, bien avant que ceci ne soit théorisé, apporte une réjouissance supplémentaire. Continuons donc à renverser et retourner gaiement les stéréotypes, les stigmates et les baratabeurs.
Heureusement que j'ai pas de vache à la maison en plus. Mathilde Wagman, on rappelle vite le titre du livre.
Fichu c'est fichu, ou l'histoire d'un homme qui voulait faire les travaux domestiques de Wanda Gag aux éditions Ypsilon.
Merci beaucoup, lecture jeunesse sur franceculture.fr. Allez, on est un peu en retard, mais on va jouer quand même. À cette heure-ci, dans le Book Club, c'est le grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe, vous êtes en train de lire un livre, car vous n'avez ni enfant, ni vache, ni marmite, ni rien du tout à vous occuper. Vous repérez l'évocation d'un air musical dans un paragraphe, vous nous l'envoyez via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou l'Instagram du Book Club de France Culture. On doit la trouvaille du jour à Nina. Elle l'a envoyée via le mail lebookclub@radiofrance.com. C'est une histoire romaine, c'est le titre du roman dans lequel elle a trouvé l'extrait, de Louis-Philippe d'Alembert, paru en cet automne 2023 aux éditions Sabine Vespizer. On est à Rome dans les années 70 et 80 et on est avec Laura. Elle avait des goûts difficiles, la Elena. Une éternelle insatisfaite que les plus bienveillants de la famille qualifiaient d'excentrique. Les autres, de la mauvaise graine de rébellion, de celle qui avait germé dans ces années d'après-guerre, amenée en dégâts collatéraux par les libérateurs venus débarrasser le pays de la devise « Dieu, patrie, famille », héritée du fascisme. Depuis, l'on voyait les filles fumer comme des turcs, sans même un fume-cigarette pour se donner une allure un tant soit peu féminine, porter des mini-jupes, boire du whisky soda, danser le twist. En un mot, faire l'américaine, à l'exemple d'Alberto Sordi, dans le film Un Américain à Rome, un chef-d'œuvre appelé à durer, sentencièrent les critiques, vulgaire, décréta la comtesse. Ou le napolitain Renato Carosone, dans la chanson Tuovo fa l'americano, avait envahi en quelques semaines tous les foyers de la péninsule. Na cupulella ca vi si era aizzata passa scampaniando pattuleta con mano a papà da fa guardare tuo fa l'americano, americano, americano senta a me chi do fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky and soda poi siete disturbato tu abballo rock e rolla tu gioca a pesa bolla fai sorte beccamella chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano. Et tout le monde danse dans ce studio. Je suis sûre que ça aurait plu à Jeanne Berger, non? C'est sûr, non? Au son, c'était Anthony Thomasson à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club de France Culture. Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weisgrus et Didier Pinault. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur Culture.